La semaine, j'ai l'impression que le micro est un peu chaud. On peut passer le cas un petit peu.
La semaine dernière, au chapitre 6 de Néhémie, nous avons vu l'accomplissement du projet de construction à Jérusalem. La muraille a été reconstruite. Au chapitre 6, verset 1, nous avons lu « J'avais fait reconstruire la muraille et il ne restait aucune brèche ». Quel sujet de joie! Et pourtant, cet accomplissement n'est pas vraiment le sujet du chapitre 6, comme nous l'avons vu. Parce qu'après verset 1, on a passé directement à l'opposition qui demeure toujours. Encore Sanballat et ses amis qui cherchent à détruire l'œuvre de Dieu. Et cette fois-ci, c'était par l'intimidation et le mensonge. Et l'idée, c'est toujours le même. C'est toujours la même. Soumis le découragement et la désobéissance chez le peuple de Dieu. Même après l'accomplissement de la promesse. C'est intéressant parce que si c'était un conte de fées, comme certains disent par rapport à la Bible, si c'était un conte de fées, on aurait pu s'attendre à ce que le livre de Néhémie se termine après le verset 1 du chapitre 6, n'est-ce pas? La reconstruction a été accomplie. Au chapitre 1, Néhémie reçoit son appel. Va à Jérusalem pour reconstruire les murs. Et là, maintenant, au chapitre 6, c'est fait. Et tout le monde a vécu heureux jusqu'à la fin de leur jour. Mais pas vraiment. Parce que c'est pas un conte de fées. La vie n'est pas un conte de fées. Ni pour Néhémie, ni pour nous. La vie chrétienne ne l'est pas. En fait, elle est beaucoup plus compliquée. Mais aussi beaucoup plus profonde et plus belle qu'un conte de fées. Et ça veut dire que souvent, la fin n'est pas vraiment la fin. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais très souvent, ce qu'on prend pour la fin, c'est en fait le début. Ou la fin du début. C'est comme un couple qui attend longtemps pour se marier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette expérience. Et lorsque le jour arrive, le couple a l'impression qu'enfin, nous sommes arrivés. Et c'est vrai dans un sens. Mais dans un autre, c'est juste le début. Vous pensiez qu'il fallait travailler sur votre couple avant de se marier. Mais maintenant, le vrai travail, ça commence. Ou bien, pensez à notre vie chrétienne. Dans un sens, le salut, c'est-à-dire le fait d'entrer en relation avec Dieu, le salut, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. À ceux qui croient en lui, il donne le droit de devenir enfant de Dieu. C'est fait, on est enfant de Dieu. Mais maintenant, le travail commence, les œuvres commencent. Parce qu'on n'est pas sauvé pour rien. On a été sauvé pour grandir, pour devenir adulte en Christ, pour les bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance pour nous. De même, les murs de Jérusalem n'ont pas été reconstruits juste pour avoir une belle muraille. C'est ce que nous voyons dans ce chapitre. Ces murs étaient reconstruits pour avancer le projet de Dieu dans ce monde. Que sa présence demeure au sein de son peuple. Ce projet faisait partie d'un projet beaucoup plus grand. Qui ne se termine pas juste parce qu'une étape ou une autre est terminée. Comme le projet pour ta vie et celui que Dieu a pour cette église. Ton projet de construction ou de reconstruction spirituelle cette année et les projets de cette église, ils s'inscrivent dans un projet beaucoup plus grand, un projet global, littéralement, ou cosmique même, le projet que Dieu a pour sa création, qui se révèle au monde. En tout cas, nos projets devraient s'inscrire dans ce projet. C'est à nous de nous examiner pour être sûr que nos projets sont les siens et non pas juste quelque chose que nous avons inventé. Et si nos projets s'inscrivent réellement dans ce projet sacré que Dieu a, nous allons trouver, comme Néhémie, que la fin n'est pas la fin. Et voilà, en fait, notre premier point. Même avant de regarder le chapitre 7, notre passage pour aujourd'hui, le simple fait que ce chapitre existe, le fait que ce livre ne se termine pas au chapitre 6, ça nous rappelle que chaque bénédiction, chaque fois que Dieu accomplit une promesse dans notre vie, c'est à la fois une fin, mais aussi un nouveau départ. Au chapitre 6, la muraille est terminée. La promesse est accomplie, mais le combat continue. Et au chapitre 7, aujourd'hui, nous allons voir la prochaine étape. La prochaine étape de ce projet de construction. Ce n'est plus une question de reconstruire les murs. Alors, qu'est-ce qui reste? C'est la question qu'il faut se poser pendant que nous lisons le chapitre. Donc, nous allons lire le chapitre 7 en se posant la question, quelle est la prochaine étape pour le peuple de Dieu? Chapitre 7, verset 1. Une fois la muraille reconstruite et les bâtons des portes posés, on a établi dans leur fonction les portiers, les musiciens et les lévites. J'ai confié l'administration de Jérusalem à mon frère Anani et à Anania, le chef de la citadelle. C'était en effet un homme intègre qui craignait Dieu plus que beaucoup d'autres. Je leur ai dit, ne faites pas ouvrir les portes de Jérusalem tant que le soleil n'aura pas fait sentir sa chaleur et faites fermer leurs battants en les bloquant alors que les gardes sont encore à leur poste. Instaurez des tours de garde pour les habitants de Jérusalem. Que l'un soit à son poste d'ouvrier, l'autre devant sa maison. La ville était étendue et grande, mais sa population n'était pas nombreuse. Et ces maisons pas encore reconstruites. Mon Dieu m'a mis à cœur de rassembler les nobles, les magistrats et le peuple pour les dénombrer. J'ai trouvé le registre généalogique des premiers Israélites venus de déportation et j'y ai vu écrit ce qui suit. Voici les habitants de la province de Juda, revenus de déportation, ceux que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, avait exilés. Et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Il revint avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Oromiah, Nakamani, Mardoché, Bichan, Misparat, Bigra, Néam et Bana. Voici la liste des hommes du peuple d'Israël, les descendants de Parosh, 2172, de Shapatia, 372, et ainsi de suite. Je ne vais pas lire toute la liste. En partie parce que j'ai presque autant de mal avec les chiffres en français que j'ai avec les noms en hébreu. Et pourtant, je vous attire votre attention à cette liste. Et je vous encourage à ne pas sauter ces listes dans votre lecture personnelle. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais d'abord, le reste de la liste, je résume au verset 39, Néhémie donne les noms des prêtres. Puis au verset 43, les lévites, c'est-à-dire ceux qui étaient de la même tribu que les prêtres. Et puis au verset 46, les serviteurs du temple. Et puis on reprend au verset 66. L'assemblée d'Israël tout entière se composait de 42 360 personnes sans compter leurs serviteurs et leurs servantes au nombre de 7367. Parmi eux se trouvaient 245 musiciens en éphèbre. Ils avaient 736 chevaux, 245 poulets, 435 chameaux et 6720 femmes. Plusieurs chefs de famille firent des dons pour les corps. Le gouverneur, 1000 pièces en or, 50 coupes et 530 tuniques destinées aux prêtres, les chefs de famille, 20 000 pièces en or et 1320 kilos d'argent, le reste du peuple, 20 000 pièces en or, 1200 kilos d'argent et 67 tuniques destinées aux prêtres. Les prêtres et les lévites, les portiers, les musiciens, quelques membres du peuple et les serviteurs du temple, de même que tout Israël, s'installèrent dans leurs villes respectives. À l'aube du septième mois, les Israélites étaient installés
dans la Bible. Voilà. C'est un long chapitre, assez compliqué, assez détaillé. Mais voilà la fin. À l'aube du septième mois, les Israélites étaient installés dans leur ville. C'est la prochaine étape. Au début de ce chapitre, au verset 4, vous l'avez noté? Au verset 4, tout ça reste à faire. Nous avons lu, la ville était étendue et grande, mais sa population n'était pas nombreuse et ses maisons pas encore reconstruites. La muraille a été reconstruite, mais la ville est vide. Vous voyez? Voilà pourquoi ce n'est pas la fin. Ça ne peut pas être la fin. Et pourquoi, en fait, l'accomplissement des travaux n'est mentionné que vite fait dans quelques petits versets? Le projet n'est pas terminé parce que la ville est vide. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un film ou une série qui a lieu dans un monde post-apocalyptique, comme on dit parfois. C'est-à-dire après un énorme désastre qui détruit presque toute la population. Il y en a beaucoup. L'être humain semble être fasciné par cette possibilité. Moi, je pense à Wall-E. Je ne sais pas si c'est le titre. Un film pour les enfants. Mais ce qui est dans l'avenir, est le monde est vide. Mais ça dépend du film. Des fois, c'est une grande ville, comme New York. D'habitude, remplie de gens, mais vide. Paris, vide. Les maisons vides. Les rues désertées. Les images sont fortes. Et c'était un peu comme ça pour Néhémie à Jérusalem. Le temple et la muraille avaient été reconstruits. Mais une grande partie du peuple pour qui on l'avait reconstruit n'était pas encore de retour de l'exil. Certains si. On a lu il y a quelques semaines de ceux qui étaient rachetés de l'esclavage en Babylone. Certains par Néhémie lui-même. Néanmoins, la population était encore plus nombreuse. Une grande partie du peuple est toujours en exil. La ville est vide. L'image est tragique en fait. Tout ce travail et la ville est presque vide. Je pense qu'à ce niveau-là, les parallèles avec notre projet bâtiment et les applications à notre vie d'église sont très évidentes. Lorsque nous avons une salle de culte de 140 mètres carrés et 160 chaises, là on a à peu près 90 chaises. Presque le double. Et si après quelques mois, la salle est presque vide, parce que nous sommes contents juste d'avoir notre local, d'avoir un bâtiment, ce sera tragique, n'est-ce pas? Ce sera tragique d'accomplir tout ce projet, 17 mois pour l'achat, et encore beaucoup de temps pour les travaux. Et puis, de nous contenter parce qu'enfin, nous avons notre cuisine pour nos repas fraternels. Et nous avons une belle sono pour nos musiciens. Et enfin, nous avons une salle pour nos enfants. Ce sont de bonnes choses. Mais entrer dans ce local, c'est pas la fin du projet. C'est le début. J'y reviens dans un instant, mais d'abord, imaginons aussi un peu comment cette vérité s'applique à notre vie personnelle. À votre projet de construire ou reconstruire votre vie sur Christ. Dans quel aspect de votre vie êtes-vous tenté de vous contenter avec la première partie du projet, avec quelques murailles, même si le reste est vide? Dans quel aspect de votre vie êtes-vous tenté de dire « Dieu a fait de grandes choses, j'ai vu tellement de progrès, j'ai vu tellement de chaînes brisées, et voilà, c'est fait. » C'est fait. Peut-être que tu t'es fait baptiser cette année, ou l'année dernière, ou l'année d'avant, et ta vie a changé. Tu n'as plus les mêmes attitudes qu'avant. C'est bien. Avec l'aide de Dieu et vos frères et sœurs, tu as reconstruit les murailles. Mais ce n'est pas la fin. C'est le début. La fin, on en est. en Éphésiens 4, verset 13, que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le but, c'est que l'Église et que chaque personne avance vers la maturité en Christ. Quel est donc le prochain pas de toi dans ton cheminement vers la maturité en Christ, vers une vie remplie de l'Esprit, marquée par les fruits de l'Esprit? Cette question se pose à nous tous, même nous qui avons la foi chrétienne, la foi en Christ depuis 40 ans. Il y a toujours une prochaine étape. Et ce serait tragique de prendre le premier pas ou le 20e pas et puis lâcher, d'essayer de terminer la course en roue libre, comme un enfant qui enlève les pieds des pédales. C'est amusant quand on est enfant sur une colline d'aller jusqu'en bas avec des pieds comme ça. Et c'est pour ça la vie chrétienne. Parce qu'à ce moment-là, quand tu lâches après la première partie, tu aurais peut-être des murailles, mais ta vie restera la moitié vide, comme la ville de Jérusalem au début de ce chapitre. Une vie la moitié vide. Alors, qu'est-ce que Néhémie fait face à cette réalité? Pourquoi à la fin du chapitre, ce ne soit pas juste la muraille qui est reconstruite, mais le peuple aussi? Pour arriver à ce point, Néhémie entame quelques tâches très précises, des tâches très pertinentes pour notre Église en ce moment et très probablement pertinentes pour chacun d'entre nous dans notre vie personnelle. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bref, il organise le peuple. Premièrement, Néhémie organise ses équipes, les portiers, les musiciens, les lévites, et il les établit dans leurs fonctions. Aussi, il délègue certaines responsabilités à des individus. C'est-à-dire, il met en place l'équipe d'accueil, l'équipe de sécurité, l'équipe de louange, l'équipe des enseignants et des animateurs de l'école dimanche. Évidemment, je traduis un peu là pour notre situation actuelle, mais vous voyez, il nomme ces personnes. La première chose que Néhémie fait après la construction, c'est d'assurer qu'il y a des équipes et des responsables nécessaires pour accomplir la prochaine étape du projet. Et que ces gens soient fidèles à Dieu. Vous avez vu le critère là. Sans ces équipes et des responsables dignes de la tâche, grâce à leur fidélité à Dieu, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. Car Néhémie ne peut pas le faire seul. Et il ne devrait pas, d'ailleurs. Le peuple de Dieu n'a jamais été conçu comme un one-man show. Vous savez ce que c'est? Un one-man show. Un spectacle d'une seule personne. Le peuple de Dieu n'est pas un spectacle d'une seule personne. Le fait de déléguer aux autres n'est pas juste du sage conseil. C'est au cœur de ce que c'est d'être le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu est une famille. Vous savez bien. Et dans une famille, on partage le travail. Et ainsi, on partage la joie et la difficulté qui vont avec. Si vous avez un service dans l'église, alors, c'est important de garder ça en tête. Garder ça à l'esprit. Ce n'est jamais censé être un moyen de chose que vous faites. Tôt ou tard, il faudra déléguer ou au moins partager la tâche, partager le travail, avoir un partenaire dans ce que vous faites, afin de former quelqu'un pour ce que tu fais déjà. Parce que tu ne seras pas là à jamais. Probablement pas, en tout cas. Et même si tu l'es, Dieu voulant, le travail va augmenter, n'est-ce pas? Car l'Église va grandir. On revient à cette question de grandir dans un instant. Mais peu importe notre service dans l'Église, je vous encourage à réfléchir déjà. Que faites-vous pour partager le travail, pour organiser le travail comme Néhémie fait dans ce chapitre? L'avenir du peuple sera en partie déterminé par notre façon de partager notre travail. L'autre chose que nous voyons ici dans ce chapitre, c'est que ça ne se fait pas n'importe comment. D'abord, pour avoir la responsabilité, il faut que la personne soit connue comme fidèle à Dieu, nous l'avons déjà vu. Et pour une grande responsabilité comme celle d'être gouverneur, il faut que la personne ait une fidélité exceptionnelle. Et on voit les mêmes principes pour les responsables de l'Église en intimité. Deuxièmement, nous voyons qu'avoir des équipes, ça se planifie. Ça n'arrive pas par hasard. Et nous pouvons donc, nous, en tant qu'Église, profiter de ce moment de transition pour réimaginer notre service et pour nous poser la question, comment puis-je faire en sorte que ce soit un travail d'équipe? Dans une petite Église, des années, on était, bon, une église plus petite que ce qu'on est maintenant. Dans une petite église, ce genre de partage, ça se fait peut-être plus facilement, plus naturellement que dans une grande église. Quand on est petit, à une petite église, les choses se passent un peu de façon informelle. Mais quand on grandit, il faut commencer à le faire un peu plus délibérément. Comme Néhémie. Néhémie est responsable d'une communauté de presque 50 000 personnes. Et là, l'organisation ne se fait pas automatiquement. Au départ, quand on commence à parler comme ça, je ne sais pas votre réaction. Mais des fois, on a peur que les choses deviennent un peu trop structurées, un peu trop planifiées. Et donc, peut-être un peu moins conviviales, un peu moins familiales, même moins spirituelles. Et cette crainte est légitime. Si on ne fait pas attention, c'est tout à fait possible de se focaliser sur l'organisation et de créer une communauté qui fonctionne super bien, comme une machine bien huilée, mais qui est froide et étouffante. Nous avons tous vu ce genre de situation dans des églises. Et ça, il faut éviter à tout prix. Il faut jamais oublier qu'on est une famille. Le processus n'est jamais plus important que la personne en face. Dans nos équipes, oui, il faut de l'organisation. Mais l'organisation n'est jamais plus importante que la personne en face. Et je vous encourage à vous souvenir de ça dans vos équipes. Que ce soit en tant que responsable ou pas. En même temps, une bonne organisation n'est pas incompatible avec la convivialité et la spiritualité. Au contraire, si nous le faisons correctement, ces choses nous facilitent. L'organisation peut faciliter la spiritualité. Actuellement, le conseil est en train de réfléchir et de mettre en place certaines structures pour l'avenir. De nouvelles équipes et des processus, par exemple. Rien de révolutionnaire, donc ne vous y inquiétez pas. Et aussi, avec l'aide de l'association Baptiste, nous essayons de formuler une description très claire de nos valeurs en tant qu'Église et un projet pour grandir ensemble. On vous en parlera dans les mois à venir. Mais tout cela ne sera pas pour étouffer la convivialité et la spiritualité. Au contraire, ce sera pour créer un espace dans lequel ces choses peuvent s'épanouir. Et dans lequel les gens peuvent s'épanouir. C'est-à-dire, dans le sens biblique du terme, s'épanouir, ça veut dire porter le fruit de l'esprit. C'est ça le but ultime, la maturité en Christ, où on porte le fruit de l'esprit. Suivant l'exemple de Néhémie, on veut mettre en place une stratégie pour la croissance, à la fois numérique et spirituelle. Et là, je dis bien stratégie. Parce que je pense que l'Église doit reprendre ce mot du monde des affaires. Parce que c'est là où on entend souvent, n'est-ce pas, stratégie. On parle au boulot, on parle d'avoir une stratégie. Et des fois, on n'aime pas trop utiliser le terme à l'Église. Parce que nous ne voulons pas baser notre vie d'Église sur le monde. Nous voulons baser notre vie d'Église sur la Bible. Bien sûr, c'est juste. Mais il faut savoir que le mot stratégie veut dire à la base en grec planifier le combat. Planifier le combat. C'est un plan de bataille. C'est tout. Nous avons vu que le projet de construction est un combat. et d'ailleurs que Néhémie a bien planifié le combat. C'est tout ce que nous voulons dire quand nous utilisons ce terme. Bien sûr, une église doit avoir un plan de bataille qui ne ressemble pas au plan de bataille de ce monde, c'est clair. Mais il faut en avoir un. Et c'est pareil dans notre vie personnelle. Et là, je vous encourage à vraiment vous poser la question dans votre vie personnelle, dans votre projet personnel de reconstruction. Est-ce que vous avez une stratégie? C'est-à-dire un plan de bataille. C'est pour ça que nous encourageons, par exemple, tout le monde à avoir un plan de lecture de la Bible. Un plan de lecture de la Bible, c'est un plan de bataille. Parce que ça ne se fait pas forcément sans effort et sans réfléchir. Au contraire, lire la Bible avec fidélité, prier avec fidélité, pour moi, ça exige de la discipline. Pour être un disciple, il faut des fois de la discipline. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas spirituel. Parfois, la chose la plus spirituelle qu'on peut faire, c'est d'exercer un peu de discipline dans sa vie. Même quand on n'a pas vraiment envie. Ça s'appelle la fidélité. Que ce soit par rapport à notre lecture de la Bible, notre temps de prière, ou bien notre façon de discuter avec notre époux ou nos parents ou n'importe qui. Parfois, il nous faut un plan de bataille, même pour nos offrandes. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens de décider à l'avance ce qu'ils vont donner, et puis de le faire. Sinon, on va toujours faire au feeling, n'est-ce pas? Et le feeling est trompeur. Nos émotions sont souvent trompeurs parce que nous sommes des êtres humains. Du coup, avec l'aide du Saint-Esprit, il faut décider d'avance. Qu'est-ce que je vais donner, par exemple? Comment est-ce que je vais réagir la prochaine fois que je serai tenté de dire telle ou telle chose ou de faire telle ou telle chose? À quelle heure devrais-je me réveiller pour avoir du temps pour prier avant de partir le matin? Parce que moi, en tout cas, si je fais au feeling, je vais rester au lit. Ou bien, comment devrais-je organiser ma vie pour avoir le temps qu'il faut pour ma famille? Et ainsi de suite. Ce que nous voyons dans ce chapitre, c'est que c'est important pour le peuple de Dieu de vivre délibérément, intentionnellement. Ce qui n'est pas pour dire qu'il faut devenir légaliste ou inflexible. Dieu est un Dieu de grâce et d'amour, et tout ce que nous faisons se base sur notre relation avec lui. Et notre appel à s'aimer les uns les autres. Mais dans ce monde brisé, aimer est un combat. Vous avez constaté, aimer n'est pas juste une question de feeling. Aimer est un combat. Et ce serait bête de ne pas avoir un plan de bataille pour ce combat. Alors, pour terminer, regardons encore juste quelques détails de ce que Néhémie fait. Après avoir mis en place sa stratégie, son plan de bataille, en établissant ses équipes, Néhémie fait une liste des personnes qui ont déjà été restaurées. C'est-à-dire, il fait un bilan pour rappeler au peuple le but ultime de ce projet, que les individus soient ramenés à une relation avec leur Dieu. Voici une liste des gens qui ont été déjà sauvés de l'exil, et c'est pour ça qu'il faut lire cette liste quand on lit la Bible. Parce que là, on lit une liste de personnes qui étaient restaurées, sauvés de leur esclavage. Un projet ou une stratégie, même si c'est exactement ce qu'il faut, ça peut être quand même un peu abstrait et impersonnel. Mais quand on lit une liste de noms, Suzy, Eric, Jérémy, Diana, ben là, ça commence à avoir un autre sens, c'est concret. Ou les noms de famille, Norton, Newberry, James, Odé. Chaque chiffre dans ce chapitre représente des personnes et des familles, comme les nôtres, comme nous. Chacun avec leurs craintes et leurs espoirs, comme toi et moi. par tous ces chiffres, le chapitre nous rappelle que ce n'est pas forcément une mauvaise chose de parler des chiffres dans l'Église. Pourvu qu'on se souvienne que la raison dont parler est que chaque chiffre représente une âme. Une âme qui a ses besoins et ses dons particuliers. Je disais tout à l'heure que le Conseil travaille sur quelques questions d'organisation et de vision avec l'appui de l'Association Baptiste. Et c'est le pasteur fondateur de l'église de Ponto-Combo, Chris Short, qui nous a rencontrés pour en parler. Et l'une des questions que Chris m'a posée était sur l'assistance moyenne au culte. Je lui ai donné une estimation entre 70 et 95. Alors, c'est une estimation. Vous comptez pas? Non, j'ai dit, pourquoi? Oh, il m'a posé la question de pourquoi. Et j'ai dit, je sais pas exactement, on n'a pas vraiment l'habitude. Et alors, il a continué. Alors, combien d'églises qui prêchent l'évangile y a-t-il à Bussy? Et combien de personnes dans chacune? J'hésite encore. Bon, ça dépend, il y a l'église, il y a nous, il y a l'église Assemblée de Dieu, et puis... Donne-moi une estimation, il a dit. Alors, 200 personnes. Mais je me demandais pourquoi il y a insisté tellement. 200 personnes. Alors, il y a combien d'habitants à Bussy? Okay, 28 000. Alors, 28 000 moins 200. Ça veut dire qu'à Bussy, cette semaine, il y a 27 800 personnes qui n'ont pas étendu l'évangile. Ouais, à peu près. Alors, voilà votre tâche. 7 800 personnes, 800 âmes à Bussy qui ont besoin de Jésus. Et là, ça m'a parlé. Ce sont des chiffres, mais ce sont des chiffres qui représentent des personnes qui pourraient être dans ces chaises. Et qui pourraient être dans... Alors, j'ai une image des chaises qu'on va acheter pour l'autre. Je vous le montrerai la prochaine fois. Mais ce sont des chaises qui sont des chaises, mais ce sont des personnes. C'est ça, l'importance de planifier. Si nous parlons des chiffres, que ce soit des chaises vides que nous voulons remplir, ou la croissance qui doit être maintenant affermie, ou le budget et les offrandes, comme Néhémie le fait aussi dans ce chapitre, des offrandes, et il donne des chiffres. Quel que soit le chiffre, ou le plan, ou le projet, le but est toujours le même, que l'Église soit remplie de personnes, et que chaque personne soit remplie du Saint-Esprit. Vous voyez, l'image d'une ville vide est tragique, mais l'image d'une église remplie avec des gens remplis, c'est la joie. Et ça commence avec nous, avec toi. As-tu établi ta maison dans la ville sainte? Es-tu entré dans ces murs? Pas les murs du Campanile, ou même les murs du local à 9 ou à 30 avenue Bourbelle. Mais la ville sainte, la ville spirituelle qui est la présence de Dieu, afin que tu sois rempli par son esprit. Parce que si nous n'invitons pas dans la présence de Dieu, comment allons-nous inviter les autres à nous? Dieu a fait de grandes choses dans la vie de cette église. Et dans ta vie personnelle, sinon vous ne serez pas là. Mais cela n'est pas la fin, ce n'est que le début. Que cette église soit remplie de personnes et que chaque personne soit remplie du Saint-Esprit. Levons-nous pour chanter.